Eh ben voilà, c'est mardi midi, 12h30, ça va être le deuxième, troisième midi où on diffuse, dixième jour de diffusion de la radio, et on commence à avoir des petits rituels. Alors, comme petit rituel aujourd'hui, du coup, comme tous les midis, dans cette émission, on va avoir Bibliothèque humaine sur la question des dominations. Comme tous les midis, aujourd'hui, demain, après-après-demain et les autres jours, on va avoir le crieur où vous pouvez mettre vos petites annonces, un peu comment vous le vivez de chez vous à droite à gauche, voilà, des choses que vous voulez partager. On va avoir la nouvelle rubrique qui est la rubrique au goulag. Voilà. Et on va avoir aussi quelque chose qui va se lancer maintenant et qui va être là tous les midis, qui va être et qu'est-ce qui se passe à la Mex? Du coup, on a une éduque aujourd'hui et bientôt les enfants qui nous raconteront tous les jours ou tous les deux jours un peu ce qui se passe dans leur Mex. Voilà. Donc, alors, on va commencer par l'interview de la Mex. On va voir la conférence gesticulée sur les questions de domination. Et si, aujourd'hui, très important, on va avoir une interview exclusive à la manière de PPDA de Jean-Jacques Goldman qui va introduire sa nouvelle chanson. Voilà. Comme PPDA l'a eu en primeur à un moment, nous avons eu Jean-Jacques Goldman qui a répondu à notre interview. Suite à ça, on aura donc le crieur et puis tout à la fin, après le goulag, on aura la rediffusion de l'émission de samedi pour les gens qui l'ont loupé des éditions Cafard. Voilà, ah, c'est parti, c'est à toi.
Du coup, toi, tu travailles dans une Mex.
C'est ça, c'est une maison d'enfants à caractère social. Ça accueille des enfants qui sont placés par un juge des enfants parce que dans leur famille, ça va pas pour plein de raisons, pour pas des maltraitances, des négligences, les parents qui vont pas bien. Et donc, on vient nous soutenir, les parents, pendant un temps en accueillant leurs enfants.
Ok,
voilà.
et donc toi, tu travailles, tu fais partie des gens qui sont réquisitionnés?
Je sais pas si on peut dire réquisitionné. Je suis salariée de la maison d'enfants et du coup, la maison d'enfants, elle ferme jamais et puis les enfants, il faut les accueillir malgré le confinement. Alors il y a certains enfants qui ont pu rentrer un peu dans leur famille ou qui sont dans des gîtes ou dans des familles d'accueil, mais il y a des enfants pour qui c'est pas possible. Du coup, nous, on continue à travailler. Après, on travaille un peu différemment que d'habitude. D'habitude, on travaille une demi-journée, enfin 5 jours par semaine, une demi-journée à chaque fois, soit du matin, soit de l'après-midi. Et là, on est parti sur des roulements de 5 jours consécutifs. Donc moi, je suis arrivée ce matin à 8h et je repars samedi matin à 8h. Et après, il y a une autre équipe qui prend le relais et après, on revient, enfin voilà, jusqu'à ce que le confinement s'arrête, l'école reprenne. Et pour l'instant, on est 3 adultes. Après, pour l'instant, c'est tranquille parce que les adultes sont là, que les enfants sont pas malades, les adultes non plus. Après, on ne sait pas ce que ça va donner par la suite.
Oui, parce que du coup, s'il y a des éducs ou des enfants de malades, ça se passe comment?
S'il y a des enfants de malades, ils doivent être mis en quarantaine dans la structure. Donc, on a aménagé un espace qui est l'espace infirmerie chez nous, où du coup ils vont être à l'écart du groupe et nous il faut qu'on les accompagne dans cet espace-là. Et puis après, s'il y a des adultes malades qui sont en arrêt maladie, il va falloir potentiellement embaucher d'autres gens qui sont disponibles, mais bon, ce n'est pas gagné dans les temps qui courent. Ou alors faire avec moins d'adultes si on n'a pas le choix.
Et qu'est-ce que vous avez, vous, les enfants, pour vous protéger là du corona?
Rien du tout, juste les gestes barrières décrétés par le gouvernement, qui sont évidemment un peu complexes à mettre en œuvre. Hein. On est censé manger à 1 mètre les uns des autres, regarder un film à 1 mètre les uns des autres, ne pas se faire de bisous, de câlins. Voilà. Donc on fait au maximum et puis on arrive à transformer des trucs en jeu, mais c'est pas tout le temps possible. Enfin, oui, en journée, on peut se faire des checks avec les pieds. Le soir, le petit bisou du soir, il est quand même un peu indispensable pour certains enfants. Quoi.
Et parce que ça représente combien d'enfants, combien d'adultes là?
Là, nous, sur le groupe, on a 8 enfants, mais on en a qui sont partis pour le moment un petit peu chez leurs parents, mais qui vont revenir d'ici dans les jours qui viennent, parce qu'ils peuvent pas rester des semaines et des semaines entières chez leurs parents. Donc il y en a qui vont revenir. Pour l'instant, là, on en a 8. Et voilà, mais bon, ça va alterner entre 8 et 15 enfants en fonction des moments et de ce qui va se passer dans les familles et de comment les familles vont pouvoir les accueillir et tout ça. En sachant que les enfants, des enfants qui voient leurs parents que sur des sorties à la journée ou sur des demi-journées dans la semaine ne peuvent plus voir leurs parents jusqu'à la fin du confinement.
Ça va être chaud à gérer, ça.
Bah oui, après on a mis en place, on a créé un compte sur un réseau social pour que les parents et les enfants puissent s'appeler en visioconférence, se voir un petit peu. On va essayer de s'enregistrer. On avait des vidéos aussi. Il y a des petits films qui ont été faits pour transmettre aux parents, pour garder du lien et puis pour raconter aussi un peu ce qu'on vit, quoi.
Et les enfants ils comprennent ?
Oui, assez bien, je trouve. Et puis, moi, je les ai trouvés, je suis arrivée ce matin et je les ai trouvés plutôt sereins par rapport à ce que j'attendais. Je pense que le fait que les adultes restent 5 jours entiers avec eux, ça fait du bien aussi parce que ça donne un peu la sensation qu'on est tous dans le même bateau, quoi. Ils sont pas, eux, coincés ici alors que nous, on rentre chez nous et qu'on revient, etc. Donc, moi, je les ai trouvés plutôt détendus. Et puis, nous, ici, c'est chouette parce qu'on a un grand espace extérieur, on a une grande structure et du coup on a moyen de faire plein de choses, d'aller jouer dans la forêt, de faire du vélo, et ça on est quand même de ce côté là en tout cas privilégié.
Est-ce que tu as des petites anecdotes du quotidien à nous raconter?
Ce matin on était parti pour faire les devoirs et là comme les enfants sont scolarisés dans des écoles différentes, on avait 25 mails d'un site qui disent tous des consignes différentes, les niveaux des enfants sont différents aussi. On a des enfants du CE2 ou CM2, mais avec des niveaux très... Enfin, ça, c'est leur classe. Après, ça ne veut pas dire qu'ils ont le niveau de leur classe toujours. Et puis, on a des artistes qui envoient des mails le matin pour le travail du matin, puis l'après-midi pour le travail de l'après-midi. Il y en a 4 ou 5 qui ont des exercices à faire sur Internet, mais bon, on n'a que 2 ordinateurs sur le groupe. Moi je pense j'ai couru de chambre en chambre parce que les mômes s'installent à leur bureau, mais du coup ils ont besoin d'un coup de main, ils comprennent pas un exercice, certains ils arrivent pas à se mettre à bosser si on n'est pas juste à côté. Je pense que la question de l'école, ça va être une sacrée galère.
Ça va être un marathon.
Ouais, un peu de ça. Et puis on a essayé d'aménager une salle à manger où on mange à 1 mètre les uns des autres. Alors on a bien rigolé aussi, on a tendu nos bras pour essayer de mesurer combien ça faisait, on a mesuré nos bras. Ensuite on les a tendus, ensuite on a placé les assiettes, ensuite on a mesuré les assiettes entre chaque table. Enfin, voilà.
Ah, vous êtes des stars en maths et en géométrie, vous.
Ouais, c'est ça, ça permet de faire ça. Ouais.
Et du coup, on aura de vos nouvelles bientôt ?
Eh bah ouais, carrément. On devrait normalement faire avec les enfants un petit enregistrement d'une émission qu'on va vous créer et qu'on vous transmettra demain.
Eh bah top, merci bien. À tout bientôt.
À bientôt.
Nous sommes en guerre.
Sans nous.
Mais l'ennemi est là.
Vous ne me touchez pas !
Mobilisation générale.
Sans nous.
Nous sommes en guerre.
Sans nous.
Radio sans nous.
C'est nous.
Radio sans nous.
Radio sans nous, tous les midis, un extrait de conférences gesticulées ou de bibliothèques humaines, un partage d'expériences, d'histoires individuelles qui rejoint le commun et le collectif et qui nous fait réfléchir.
Il s'agit donc du dernier tableau avant l'entracte. Ce tableau, c'est sur les dominations sociales. Le racisme, le sexisme, les dominations de classe que vous avez subies, dont vous avez été témoin, ou dont vous avez pu commettre.
Jean Faux Collège, c'est un tout petit collège de la campagne angevine. Moi, je suis tout juste en sixième, puis blonde avec des cheveux longs jusque là, plutôt menue, pas trop moche, et du coup j'ai l'immense honneur de faire partie du groupe des cool, comme je sais plus qui disait tout à l'heure. Chez nous c'était plutôt le groupe des populaires. Le groupe des populaires, je crois, c'est un truc qui est assez intergénérationnel et qui a toujours été présent dans les collèges. C'est le groupe des gens là, qui n'ont pas beaucoup de problèmes à écrabouiller les gens autour d'eux pour réussir à se faire une place et pour réussir à exister au sein de ce collectif de collégiens et de collégiennes qui n'est pas franchement facile. Du coup, moi, je faisais partie de ce groupe-là. Et du coup, j'étais aussi actrice de ces mécanismes de domination avec notamment des vieux potes de l'école primaire et particulièrement une grande copine de l'école. Du coup, ma sixième se passe avec ces copains-copines-là. Ma cinquième se passe et l'été de ma cinquième, je suis avec une pote et puis ma sœur. Et on se dit, vas-y, on va faire un atelier coiffure. Ah, trop cool, ça fait longtemps que je veux me couper les cheveux courts. Du coup, on y va et puis on est dans le jardin de chez mes parents et on se coupe les cheveux, tout ça. Du coup, ma sœur me coupe les cheveux très courts. J'en rêvais depuis 2 ou 3 ans. Et du coup, je suis trop contente. J'arrive à ma rentrée de quatrième au collège. Et d'un seul coup, ben, ça fait basculer des trucs. Du coup, cette coupe de cheveux qui me paraissait assez peu significative, en fait, l'est beaucoup. Et je deviens la lesbienne de service, d'après... Enfin, c'est le terme qu'utilisaient les personnes qui le disaient. Et d'un seul coup, mon prénom devient genre la blague récurrente, genre le truc à faire et à dire dans l'année. Du coup, je me fais appeler Cerise pendant 2 ans, pendant du coup tout le reste de mon collège, par toutes ces personnes qui, les années précédentes, étaient mes potes. Du coup, plutôt, je ne vis pas très bien. Et un jour, qu'un de mes anciens potes, du coup, de cette bande de populaires, je ne sais pas, m'appelle Cerise ou fait une connerie de ce genre-là, je vois qu'il y a mon ami d'enfance qui le voit faire ça. Et le soir, alors qu'on est en train de rentrer en bus, je vois à la sortie du bus cette vieille amie d'enfance foutre une tarte à cet ancien pote qui m'appelait Cerise à longueur de journée. Voilà.
Alors moi, je me souviens qu'il y a quelques années, alors que j'étais célibataire, j'ai dit à un copain, moi, si un jour je suis en couple, il y a bien un truc qu'on pourra pas me reprocher, c'est d'être un mâle dominant. Enfin, je veux dire, moi, je suis pour l'égalité homme-femme, et moi, la domination dans mon couple, il n'y en aura pas. Et puis, quelques années après, je me retrouve en couple, et là, je me souviens de dire à un autre copain, s'il y a bien un truc qu'on ne peut pas me reprocher, moi, dans mon couple, c'est d'être un mâle dominant. Enfin, je veux dire, moi, je suis pour l'égalité homme-femme, et moi, la domination masculine dans mon couple, il n'y en a pas. Et puis, un jour, un soir, je rentre du travail, je vais sur mon Facebook, outil numéro 1 d'éducation politique des jeunes adultes partout dans le monde, et je tombe sur un article d'une certaine Corinne Monnet, et qui s'intitule « La répartition des tâches entre les femmes et les hommes dans le travail de la conversation » ou « Comment dans un couple, la domination masculine se joue aussi dans la parole ». Bon, on est d'accord, cet article n'est pas du tout fait pour moi. Enfin, je veux dire, moi je suis pour l'égalité homme-femme, vous pouvez venir voir dans mon couple, il n'y a aucun souci. Mais je suis curieux et je décide donc de lire cet article. Dans cet article, nous parlerons indifféremment de conversation, de dialogue ou de discussion pour faire référence à tout échange oral. Ok. Nous allons donc nous intéresser à la gestion du dialogue mixte au regard du genre des personnes impliquées, qu'elles soient hommes ou qu'elles soient femmes. D'accord. Aussi, nous verrons que les conversations sont dépendantes du genre et qu'ici aussi la domination masculine s'exerce. Car la conversation, on l'oublie trop souvent, est une activité politique. Bon, admettons, mais là je me dis qu'il faut quand même faire attention à ne pas tout lire à travers le prisme de la domination masculine. Surtout, vous pouvez venir voir dans mon couple, enfin, ça se passe très très bien. Il n'y a aucun problème. Je poursuis l'article. Selon l'opinion communément admise, ce sont les femmes qui parleraient plus que les hommes. Bon, là-dessus, au moins, on est d'accord. Et pourtant, le stéréotype de la femme bavarde est, en ce qui concerne la différence des sexes et la conversation, tout à fait erroné. Toutes les études montrent que dans les couples hétérosexuels, les hommes parlent plus que les femmes. Bon, alors ça, il faudrait quand même réussir à le démontrer. Dans une réunion entre amis, par exemple, le temps moyen de prise de parole d'une femme se situe autour de 8 secondes contre 16 secondes pour les hommes, qui s'étalent. Toutes les études le montrent, en moyenne, lors de ce type de réunion, les hommes parlent deux fois plus que les femmes. Hein, je me dis, en même temps, les chiffres, on peut aussi leur faire dire ce qu'on veut, mais je poursuis mon article. Dans une discussion réunissant hommes et femmes, il arrive régulièrement qu'une personne interrompe l'autre, c'est-à-dire qu'elle lui coupe la parole. Les interruptions des femmes par les hommes sont 10 fois plus nombreuses que les interruptions des hommes par les femmes. Je commence à rigoler jaune. Dans un couple hétérosexuel, quand un homme s'exprime, son interlocutrice manifeste dans 90% des cas un intérêt fort pour son propos. Cela se traduit par des micro-relances qui viennent soutenir la parole de l'homme. Des « oui », des « hum », des hochements de tête. Il a en revanche fréquemment constaté une prise de distance de l'homme durant l'intervention de la femme. Il se met à regarder ailleurs, il marque corporellement un léger recul, et seuls 20% des hommes soutiennent la parole de leur interlocutrice avec des micro-relances régulières. Les femmes posent par ailleurs 3 fois plus de questions que les hommes lorsque l'autre s'exprime. Questionnement qui contribue à donner du crédit à son propos, à sa pertinence. Je blêmis. Parce qu'évidemment, je me reconnais dans cette étude. Et là, il y a tout un tas de conversations qui me reviennent, des conversations dans mon couple, des conversations politiques, par exemple, où je commençais à disserter sur la vie avec assurance, et où les propos qui m'étaient renvoyés n'avaient finalement pas grande valeur. C'était finalement mon opinion qui comptait. Et je me retrouve tellement dans cette étude que je me demande si les sociologues qui ont pondu cette recherche, ils m'ont pas pris comme cobaye, ouais. Ils auraient placé des caméras bien avant le Love Story dans ma maison et ils m'auraient observé comme un rat de laboratoire. En lisant cette étude, je prends conscience que le couple est évidemment un des lieux du politique et que c'est aussi dans l'intime que s'enracine la domination. Et que c'est pour ça que c'est important qu'en tant que mec, on balaye devant notre porte. Pendant longtemps, j'ai hurlé à qui voulait bien l'entendre que l'essentiel à notre combat contre les dominations était moins d'être utile aux dominés qu'être nuisible aux dominants. Et si, dans mon couple, je devais apprendre à m'auto-nuire, c'est-à-dire apprendre à arrêter de prendre toute la place, apprendre à me la boucler, apprendre à être le moins nocif possible.
Là, nous sommes. Moi, je suis en 2006. Je reviens de 3 ans. J'ai fait 3 ans d'études. Je suis parti en voyage en Amérique latine, 6 mois. Je rentre en colocation. Je lis beaucoup sur la politique, et je me rends compte avec des copains copines que je suis plutôt de la bourgeoisie intellectuelle, que je suis un homme, que je suis blanc, et voilà. Bon. Je décide plusieurs années plus tard de partir avec une amie en Asie du Sud-Est. On bouquine et on est intéressé pour savoir ce qui se passe en Birmanie. La Birmanie, c'est une dictature encore aujourd'hui. Et donc on bouquine dessus et puis on y arrive. Et l'enjeu pour nous, c'est d'essayer de comprendre un peu ce qui s'y passe, avec toute l'honnêteté qu'on peut avoir. Et donc on progresse dans le pays en sachant bien qu'on n'a pas le droit d'aller où on veut. Il y a des hôtels qui sont réservés pour les Birmans et des hôtels qui sont réservés pour les touristes, qui doivent bien suivre certains endroits, on ne peut pas aller partout. Nous on joue un petit peu avec ça, on rencontre des gens. À l'époque je joue au foot parce qu'à 17h, la vie de la ville s'arrête et on joue au foot et c'est un formidable moyen de rencontrer les gens. Donc je fais ça, je rencontre des gens. On rencontre des gens, on se fait inviter à dîner. On se rend compte à ce moment-là que les gens n'ont pas trop le droit de nous inviter à dîner, surtout quand il fait nuit, et encore moins de nous inviter à dormir. On rencontre des gens qui, prennent en vidéo une petite loterie locale qui est en fait de l'argent détourné qui revient à la junte militaire et qui les envoie en Norvège sur un site démocratique. Donc on fait ces rencontres-là. On se fait aussi accueillir par la junte militaire qui nous renvoie gentiment de la ville dans laquelle on était, où il n'y avait pas d'hôtel pour nous accueillir. Bref, un voyage d'un mois un peu décontenançant. On est obligé de partir au bout d'un mois. J'arrive à Bangkok, Koh San Road. Je ne sais pas si les gens connaissent Koh San Road à Bangkok. C'est la ville où, en gros, tous les Occidentaux s'y retrouvent. Il y a les bars. C'est la fête, ça vit 24 heures sur 24. C'est l'endroit où sont les guest houses. Les guest houses, c'est les petits hôtels les moins chers. Du coup, on y est parce que c'est l'endroit où on arrive. Et là, il y a aussi la prostitution à cet endroit-là. Il y a des Blancs, des Australiens, mais aussi des francophones, des Français, des Allemands qui sont torse nus dans les rues en train de boire des grosses pintes. C'est assez détestable et je ne suis pas très bien à cette image-là. Avec mon ami, on décide d'acheter deux vélos, de les équiper et puis de partir en vélo. On part de Bangkok en vélo. Ce n'était pas prévu avant. Et là, on va vers le Cambodge. Et puis on a l'occasion d'aller dans des endroits où certaines personnes qu'on rencontre, ils n'ont jamais vu de Blancs. Ils n'ont jamais vu d'Occidentaux. La rencontre est toujours superbe, très touchante pour nous. On se fait inviter, et puis on avance, on progresse. Et puis je suis un petit peu embarrassé par les rencontres que je fais. Je vis avec pas beaucoup d'argent, je vis avec 200 $ par mois, ce qui est le salaire moyen là-bas. J'ai pas l'impression d'être un privilégié, enfin je sais que moi je suis en vacances quand eux ils travaillent quand même. J'avance un petit peu et j'ai un problème puisque à chaque rencontre, il y a beaucoup d'enthousiasme de leur part. Et moi, et notamment sur ma culture et de là d'où je viens, moi je suis embarrassé parce que je défends pas le capitalisme de là où je vis, je défends pas l'occidentalisme de là où je vis. Je suis pas bien avec ça. Si bien qu'à un moment donné, arrivé au Laos, j'arrive plus à rencontrer les gens. Et je reste enfermé dans une guest house pendant un mois où je n'ose plus aller chercher de la nourriture pour m'alimenter. J'ai eu une grosse dépression. Ça fait 10 ans. Aujourd'hui, je n'ai plus jamais repris l'avion et je ne suis plus jamais allé dans un pays plus pauvre que dans lequel j'étais.
Voilà pour ces quelques anecdotes sur les rapports de domination. Et comme pour les autres tableaux, on vous invite vous aussi à venir nous raconter quelques-unes des anecdotes et des situations que vous avez vécues, ou peut-être que vous avez observées, ou qu'on vous a racontées. Voilà. C'est pas le plus facile à raconter. Ouais, ouais, ouais. On va commencer par la famille, l'école, tout ça, puis là on attaque un peu le vif du sujet, quoi, les aspects moins dangereux.
Vous laissez tranquille.
Et peut-être que les gens ne vivent pas de rapport de domination.
Wow, on peut bien vous raconter ça alors.
Ouf.
J'hésitais à venir sur la question des dominations. Moi aussi, je suis un mec blanc, plutôt classe moyenne, qui n'a pas trop eu de galère dans sa vie. Et puis Olivia, elle disait un truc que vous avez pu observer. Du coup, je me suis dit, ah, ça fait tilt avec une situation que j'ai vécue un soir. Moi, j'habite au Mans. Il y a un bar que j'apprécie beaucoup au Mans, qui s'appelle Le Lézard, où je traîne pas mal. Et je sors de ce bar, il est 2h du matin, et je sors avec un copain, et on est deux blancs. Et puis, trois autres personnes sortent du bar à la fermeture, et... trois personnes, donc un blanc, un type noir et une nana rebeu. Et on se met à discuter ensemble, là, tous les cinq, à la sortie du bar, et un autre type arrive avec un saucisson dans la main, là, qu'il était en train de grignoter, qui sortait d'un autre bar qui vendait des saucissons. Et ce type se met à nous proposer des saucissons. Il le propose à une première personne, une des personnes blanches, là, autour du groupe. La personne dit non, à une deuxième personne qui dit non, une troisième, une quatrième personne. Et cette quatrième personne, il se trouve que c'est la nana rebeu. Et elle dit non aussi, et le type la regarde et lui dit « c'est parce que tu es musulmane que tu dis non ». Alors, de fait, la personne, elle lui dit « d'où tu sais que je suis musulmane, je sors d'un bar, oui, je suis rebeu, mais il n'y a rien qui prouve sur ma tronche que je suis musulmane ». Et le type commence à embrouiller la nana en disant « non, mais je te voulais pas de mal », tout ça. Et du coup, la nana lui dit gentiment « juste, je suis en train de discuter avec des gens, casse-toi, et puis je finis ma soirée, et tu vas finir la tienne avec ton saucisson, et tu vas le manger plus loin ». Le type décide de pas se casser et de continuer à faire chier sur la religion de la nana qui, a priori, elle n'a pas, continue à la faire chier. Et du coup, le type noir, qui est le pote de la nana en question, lui dit « maintenant, tu te casses », il lui redit ce que la nana lui a dit, toujours le type continue à faire chier et n'entend pas les choses. Donc le type noir commence à repousser un peu le type qui s'en va un peu plus loin, tout ça. Et puis on recommence à discuter entre nous et le type crée un truc. Et le gars noir du groupe, là, se met à lui crier dessus, à lui dire « Bah vas-y, c'est bon, maintenant, casse-toi, va dans une autre rue, on ne te voit plus, on ne veut plus te voir, tout ça. » Et le type, dans son coup d'énervement, d'alcoolisme du soir, avec son saucisson à la main, regarde le type et lui dit « Mais qu'est-ce que t'as, toi, sale négro ?» Donc le type s'énerve, enlève sa chemise et va pour casser la gueule du type qui l'a insulté de sale négro. Du coup, commence à se jeter dessus, il commence à se battre, ils vont dans une autre rue, ils continuent à se battre, c'est la panique pour tout le monde, qu'est-ce qu'on fait? Les gens se battent, tout ça. Bref, une soirée de gens qui finissent un peu sous au bar à 2h du mat. Finalement, les deux se font arrêter par un vigile d'une boîte de nuit qui est un peu plus loin et ils se retrouvent à se faire séparer et à ce que le type, avec son bout de saucisson, s'en aille un peu plus loin et au final nous laisse finir la soirée. À ce moment-là, le copain avec qui j'étais, donc copain blanc avec qui on sortait au début à deux du bar et qu'on rencontre ces trois personnes et qui se passe toute cette histoire, va voir le copain du type noir, alors oui, c'est... le copain blanc du groupe de trois dans lequel il y a le type noir, la nana rebeu et le blanc, va voir le type noir et lui dit « T'as pas eu à réagir comme ça, franchement, t'aurais dû le laisser tranquille, c'est un con, comme il y en a beaucoup, tout ça. » Et là, la nana rebeu, ce à quoi je m'attendais pas du tout, va défoncer la gueule de son pote blanc en lui disant « Mais d'où tu lui dire comment il a à réagir sur une situation comme ça? Toi, t'es pas noir, toi, t'es pas rebeu, toi, tu subis pas les regards des gens tous les jours dans le métro. » Et elle lui fait un long laïus de 5 minutes en lui expliquant pourquoi il a pas à lui expliquer comment il a à réagir face à quelqu'un qui vient de lui dire des propos racistes. Alors le type blanc se retrouve tout penaud à dire oui oui tout ça, et le copain blanc, du coup c'est là qu'il intervient, le copain blanc avec qui j'étais à ce moment-là, va voir la nana rebeu et lui dit « Putain mais t'as trop raison, je suis trop d'accord avec toi, tout ça », et je me dis « Putain il a raison, moi aussi j'ai envie de la soutenir, tout ça », et la nana rebeu, là, refait un long laïus de 5 minutes en lui disant « Mais j'ai pas besoin du soutien d'un blanc quand je dis le truc, je ne suis pas tout ça ». Et c'est le moment où moi je me dis « En fait, j'ai bien fait de pas aller là-dessus ». Je me suis retrouvé moi aussi très gêné dans cette situation.
S'il y a d'autres personnes qui ont envie de venir raconter une anecdote, il y a encore temps.
J'avais envie de vous parler de quand j'habitais en Colombie. Alors, il y a des choses qui ressemblent un peu à ce qu'a raconté Cédric, mais en fait, moi, j'y vivais. Et j'ai voyagé là-bas pendant 3 mois, mais j'ai habité 1 an et demi à Bogota avec un amoureux où j'avais un petit boulot et tout ça. Et puis, on avait bientôt 30 ans et puis on avait envie de penser à une famille, s'installer, vivre là et tout ça. Et du coup, je vais me renseigner, ça se passe comment quand il y a un couple mixte qui fait des enfants à l'étranger, machin. Et là, je me rends compte que les Français, ils ont un tas de privilèges. C'est-à-dire que l'école de l'Alliance française est gratuite pour les Français, qui coûte 10 000 euros aux Colombiens, hein, parce que c'est quand même l'éducation la plus réputée au monde, l'éducation française, ça, et tout ça, voilà. On a aussi la sécurité sociale, c'est gratuit. Un Colombien se casse la jambe, en fait, il crève s'il n'a pas d'argent. Voilà. Et tout un tas de privilèges. Et après, je me suis dit, mais... En fait, nous, à l'étranger, on s'appelle expat. Il y a aussi pas mal de quartiers d'expatriés où il y a plein de privilèges. Et un immigré ici, il s'appelle immigré. Il n'a pas de droit. On lui dit qu'il fait du communautarisme. Et c'est vachement plus compliqué. Puis aussi, quand je rencontrais des Colombiens, des nouveaux gens et tout ça, j'avais tout le temps l'espèce de grosse crème sur moi. Like, oh, français, ça qué hermoso, à Paris, ça, qué lindo, voilà, mi casa, esto casa. Et je me faisais inviter à manger tout le temps. Et puis quand on m'invitait à manger, c'était du poulet, les plus beaux plats, on sortait les couverts, les assiettes, alors que eux, en fait, souvent, ils mangeaient pas ça. Voilà. Du coup, j'ai dit, c'est hors de question, on fera pas d'enfants en Colombie. Moi, je cautionne pas tous ces trucs-là. Plutôt, on n'a qu'à faire des enfants en Europe, ou plutôt, on trouve une autre solution, sinon, on n'en fait pas. Donc, on pense quand même à l'adoption. Lui, il est d'une famille noire du Nord, où En fait, des gamins dans les rues abandonnées, etc., il y en avait partout tout le temps. Et des familles nombreuses, hyper pauvres. Et en fait, il me dit, on n'a qu'à se renseigner. Parce que c'est vrai que c'est un peu con de continuer à faire des enfants alors que on est assez surpeuplé, c'est pas un cadeau pour l'enfant, blabla, bon, tout le discours. Donc je vais voir une agence sur l'adoption en Colombie. Et ben figurez-vous que c'est en fait des entreprises privées qui ont récupéré le bébé. Enfin, façon de parler, hein. Je vais pas vous donner les différences de prix parce que c'est assez scandaleux. Mais en fait, c'est pas le même prix un blanc, un indien et un noir. Donc là, je pète le scandale. C'est quoi vos histoires? C'est quoi votre argument, machin? Et là, le mec me répond. En fait, un noir, ça coûte beaucoup moins cher qu'un blanc parce que génétiquement et pas socialement, il a plus de chances de réussir dans la vie. Voilà. Donc en fait, on n'a pas fait d'enfant.
Une autre anecdote? Et ben, s'il n'y en a pas d'autres, je vous propose qu'on fasse une petite pause. C'est pas une formule, hein, c'est une expression, c'est vraiment une petite pause, une courte pause de 10 minutes, histoire de s'aérer un peu, d'aérer la salle, de prendre l'air et puis de se retrouver pour la suite et fin de cette séance.
Qui c'est qui est très gentil?
Les méchants.
C'est nous.
C'est nous.
C'est nous.
C'est nous.
C'est nous.
C'est nous.
À la manière de PPDA, on a pu faire une petite interview de Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques, que penses-tu des mesures portées par le gouvernement?
On pense que quel que soit l'État, et les 40 dernières années ont prouvé ça partout dans le monde, un État ne peut pas résoudre tous les problèmes. Ça n'empêche pas qu'il y a une situation d'urgence à laquelle il faut répondre.
Alors qu'attends-tu?
On attend le grand soir.
Que penses-tu de ces appels le soir, notamment à applaudir les soignants et soignantes?
Ça procède, à mon avis, d'une vision extrêmement policée de la société. Comme si tous les gens avec lesquels il faut être solidaire, comme s'ils étaient répertoriables.
Donc c'est un peu cette thématique que tu as développée dans la chanson, c'est ça?
Je voulais que cette chanson ne soit pas le fait de chanteurs, mais plutôt de un peu toutes les personnes de la société. Des gens qui représentaient un peu toute la société. Ouais.
Brancardiers, aides-soignants, infirmières, agents de sécurité, qui ont mille raisons de rester confinés, mais leurs propres raisons de ne pas laisser tomber. Ils nous donnent du temps, du talent et du cœur, oubliant la fatigue, la peur, les heures, et loin des beaux discours, des grandes théories, à leur tâche chaque jour, sans même attendre un merci. Sauve des vies. Caissière, éboueur, un cadre, un ouvrier, un routier, un facteur, paysan,
pédigier.
Tous auraient très bien pu se mettre en retrait, mais ils pensent têtus qu'ils ont un rôle à jouer. Ils nous donnent du temps, du talent et du cœur, oubliant la fatigue, la peur, les heures, et loin des bons discours, des grandes théories, à leur tâche chaque jour, sans même attendre un merci. Sauve nos vies. Merci les boulangers, les équipages, les cheminots. Merci à tous ceux que j'oublie, les ambulances, les taxis.
Merci Radio Fondue.
Les chercheurs vont trouver, mais ils ont besoin de nous tous. Alors soyez prudents.
Bon, on n'a pas pu passer en entier l'interview avec Jean-Jacques, mais du coup, il faisait un hommage aussi à son frère Pierre Goldman. Du coup, je vous invite à aller voir un peu plus sur Internet sur son frère. Voilà, la suite
crier
du programme.
Criez et nous crions pour vous.
Passage d'information, petite annonce, coup de gueule, défi. Envoie un mail sur radio.sansnous@cma-pdll.org et on le lira.
Radio sans nous, crieur public. Petite annonce.
Tous les jours à 12h30 ou à 19h45.
Vous écrivez et nous crions pour vous.
Je vous contactais aujourd'hui pour vous transmettre un message qui concerne la population carcérale, les prisonniers de France. Depuis que les décisions qui ont été prises récemment par l'administration pénitentiaire et le gouvernement, les prisonniers de France subissent un réel chaos, un calvaire.
Vous écrivez et nous crions pour vous.
Nous sommes Mujeres Libres. Nous sommes les combattantes de la guérilla kurde. Nous sommes Gulabi Gang en Inde. Nous sommes les femmes partisanes combattant le fascisme. Nous sommes les mères qui luttent. Nous sommes la nature qui nous aime. Nous sommes les femmes révolutionnaires d'hier et d'aujourd'hui. Nous sommes les femmes savantes qui ont été brûlées comme sorcières. Aujourd'hui, nous célébrons cette identité et cet héritage de lutte à travers le monde. Nous sommes des femmes internationalistes du nord et de l'est de la Syrie, au cœur de la révolution du Rojava. Aujourd'hui, nous célébrons Nowruz, qui exprime la lutte pour l'identité kurde, un combat pour la vie et pour la liberté. Nous sommes au début du printemps, nos yeux et nos oreilles s'ouvrent et nous voyons que la route vers la liberté a pris un nouveau tournant. Si nous regardons l'histoire mondiale, tous les êtres vivants ont dû traverser des conditions de vie extrêmes. À chaque fois, nous avons survécu et nous avons évolué. Nous faisons partie d'un cycle de vie s'étendant sur des millions d'années. Ces moments de crise, comme celui auquel nous faisons face aujourd'hui, dû au virus Corona, ont été l'opportunité de voir le monde sous un nouvel angle et de le reconstruire. Les femmes ici ont construit une révolution et leur auto-organisation à partir des cendres d'une guerre. Nous sommes partout et toujours entourés par la guerre, même si elle se cache derrière des masques différents. Dans des situations exceptionnelles, les failles profondes et l'absence d'éthique humaine révèlent les fondements du système patriarcal où règne la loi du profit. Alors que les institutions étatiques et ces organisations manquent de pourvoir les soins nécessaires pour les personnes touchées, ou profitent même de la situation pour augmenter encore le niveau de contrôle et d'oppression, nous renforçons nos communautés et les liens entre les humains sur toute la planète. Nous agissons comme nous l'avons toujours fait, avec la force de notre société, en pensant aux camps de réfugiés, aux prisons, aux femmes qui sont exposées à la violence domestique, aux personnes sans emploi qui ne peuvent pas acheter le nécessaire pour vivre, ou encore à celles qui n'ont personne pour prendre soin d'elles. Ces temps chaotiques peuvent ouvrir de nouvelles possibilités dans nos esprits. Même si les circonstances exigent de nous de garder une distance, nous trouvons des moyens de rester proches. Nos camarades zapatistes au Mexique nous disent également « Nous appelons à ne pas perdre le contact humain, mais de changer momentanément les manières de nous savoir camarades, de nous savoir frères et sœurs. Pour se rejoindre, les mots et le pouvoir de l'écoute avec son cœur connaissent différents chemins, calendriers et géographies. Et la lutte pour l'humanité est une de ces voies. Alors que le système capitaliste est au bord du gouffre, la seule chose qui peut nous rassurer sommes nous-mêmes. Alors que le monde entier parle de la façon de lutter contre le virus, nous parlons de pourquoi nous luttons. La liberté doit croître en nous-mêmes pour s'exprimer au sein de la communauté, malgré les restrictions. La crise du corona ne peut pas être une porte ouverte au fascisme, au renforcement de la répression, à l'inégalité et à l'isolement. Les États à travers le monde profitent de cette situation en s'appuyant sur la peur des gens afin d'augmenter leur pouvoir. Nous ne pouvons survivre seulement si nous nous organisons collectivement, de toutes les manières possibles. Le problème est la solution. Chaque combat porte en son sein de nouveaux savoirs. Notre système d'autodéfense se trouve dans la nature. La vie ne peut pas être prescrite à travers un certain mode de vie ou par la médecine chimique qui nie des milliers d'années de connaissances qui se trouvent dans les mains et dans le cœur des femmes. La santé est avant tout le fait de prendre soin de sa communauté. C'est l'amour pour notre existence et pour la terre sur laquelle nous marchons. La santé, ce sont les valeurs qui unissent la société. C'est l'équilibre de notre biodiversité. La santé de notre société est aujourd'hui confrontée à une nouvelle menace qui est une partie intégrante de ces modes de vie qui nous séparent les unes des autres et qui nous séparent de la nature. Face à cette menace, nous sommes unis, en solidarité avec toutes celles et ceux qui sont décédés et toutes celles et ceux qui luttent jour après jour partout dans le monde. Du fond du cœur, nous vous envoyons un salut révolutionnaire avec amour et respect.
Vous écrivez et nous crions pour vous!
Passage d'information, petite annonce, coup de gueule, défi, envoie un mail sur radio.sansnous@cma-pdll.org et on le lira.
Radio sans nous, crieur public, petite annonce.
Tous les jours à 12h30 ou à 19h45.
Vous écrivez et nous crions pour vous!
Alors, on a encore une dernière chose à la crier. En fait, il y a le fan club de Patrick qui réagit à l'interview de DJJ. Et du coup, je crois qu'on va avoir tous les enfoirés de la Terre qui vont nous faire passer leurs petites chansons les uns après les autres. C'est le jeu de la crier, je suis obligé de le passer. C'est parti.
Faire tout un anniversaire à tout ce qui se donne, à tout ce qui se donne. Hommage aux femmes, hommage aux âmes, hommage aux hommes, à tous ceux qui se sont battus, qui ont gagné sans l'avoir su. Je veux offrir ces quelques phrases à ceux qui passent et puis s'effacent, aux inventeurs de jolis mots, morts de les avoir chantés trop, à ceux qui courent dans les secours, qui dans les nuits donnent le jour, à ceux qui s'éteignent dans les flammes, sans drapeau et sans oriflamme, à tous ceux qui se donnent, à tous ceux qui se donnent. Hommage aux femmes, hommage aux âmes, hommage aux hommes, tous ces faiseurs d'humanité, effacés par l'humilité, effacés par l'humilité. Quelques rimes à tous ces hommes anonymes, à tous ces héros quotidiens, pour un sourire ou pour un rien, à toutes ces personnes qui nous laissent tant d'espoir dans de simples gestes, et puis aussi enfin à toi, toi qui fais tant et qu'on ne voit pas, à tout ce qui se donne, à tout ce qui se donne. Hommage aux femmes, hommage aux âmes, hommage aux hommes, à tous ceux qui se sont battus, qui ont gagné sans l'avoir su, à tous ceux qui se sont battus, qui ont gagné sans l'avoir su.
Et voilà, c'était Patrick. Patrick, voilà, après Jean-Jacques Goldman, Patrick, on va être dans la belle série des Enfoirés. Et merci Patrick, en tout cas, de faire le lien entre nos deux programmes, qui sont le programme d'un côté de la Criée et le deuxième.
Radio Salut, rubrique Staline, reviens.
Je vous demande de rester chez vous.
Ce que je souhaite, continuer la vie économique.
Au goulag. Au goulag.
Envoie tes propositions de goulag sur l'adresse mail radio.sansnous@cma-pdll.org. Marc, au goulag dans le titre.
Au goulag. Au goulag.
Tu m'entends?
Ouais, t'as trouvé des trucs un peu positifs à montrer aux gens?
Bah j'ai essayé, mais c'est pas évident, hein. On dirait que c'est la saison des trous de balles en ce moment.
Ah, on peut dire trous de balles sur Mediapart maintenant.
Eh bah écoute, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Qu'ils viennent me chercher. On va commencer par une initiative qui s'appelle En Première Ligne.
Ah oui, je vois ce que c'est les dealers de Melun là qui ont fait de la pub pour leur point de vente sur Snapchat, j'ai vu l'article sur Le Parisien. En fait, ils ont décidé de faire la promo de leurs tarifs et de leurs produits en s'habillant avec des combinaisons à la Breaking Bad et des masques, un bon moyen pour eux de relancer le commerce de cannabis et de coke hein, en ces périodes difficiles pour les commerces non essentiels.
Non, En Première Ligne ça parle pas de coke, quoique ça aurait été bien trouvé comme titre, mais non, c'est pour aider ceux qui sont en première ligne, donc les soignants ou tous ceux qui bossent, pour leur proposer des coups de main en tout genre. Je propose qu'on écoute ce garçon, c'est un des fondateurs de la plateforme.
Il y a l'écosystème un peu numérique qui est en train de se mettre en place, les gens qui ont des bonnes idées. Nous, on a voulu s'ajouter à ça, on est un peu tous dans le même bateau et qu'il y a une vraie solidarité qui s'est créée instantanément.
Alors, si Norman c'était Carapuce et que Dupont-Moretti c'était Tortank, je pense que lui c'est un Carabaf.
Bah, écoute ce qu'il dit, Carabaf.
J'ai réfléchi un peu en termes tout simplement d'équilibre statistique et je me suis dit qu'il y allait avoir du boulot.
Putain, c'est vrai ça, je pense jamais à réfléchir en termes d'équilibre statistique.
Mais c'est pour ça que toi t'es pas disruptif.
On pensait être le Tinder contre le coronavirus à une époque parce que on avait utilisé la nomenclature match.
Donc en fait, ils ont ubérisé la solidarité, mais c'est qui? C'est des connards d'école de commerce encore?
Attends, c'est pire que ça. Leur initiative, elle a fait le tour des médias. On en a parlé, beaucoup en bien. Même Squeezie en a parlé dans une vidéo à 3,5 millions de vues.
Il y a un site qui a été créé, du coup, pour faire face aussi à l'épidémie et qui est génial, qui s'appelle enpremièreligne.fr.
Donc ça a fait le buzz, un bon buzz, et c'est là que ça a intéressé Loris Guémard et Tony Le Pennec, deux journalistes d'Arrêt sur Image. Ils ont tiqué sur un truc. Les trois amis à l'origine du site, ce sont trois marcheurs, trois macronistes qui ont été impliqués dans LREM et qui en plus possèdent une entreprise de com politique.
C'est incroyable le capitalisme quand même, hein. C'est la Startup Nation qui a détruit l'hôpital, mais c'est la Startup Nation qui viendra vous sauver.
Ils ont honte de rien, ces salopards, c'est hallucinant. Moi je croyais que c'était un truc sympa, en fait non, c'est trois péteux qui profitent de la crise pour se faire un nom, qui font un coup de com' phénoménal sur le dos des difficultés des soignants, mais putain, mais on est où là?
Bon, sur une note plus positive, je voulais parler de l'initiative de Renaud Capuçon, le violoniste. Tous les jours, il a décidé de nous interpréter un morceau pendant le confinement. Voilà, écoute, ça va te détendre un peu peut-être.
Non mais t'as vu la bio de Renaud Capuçon?
Qu'est-ce qu'elle a la bio de Capuçon? Il est de droite, c'est ça?
Évidemment qu'il est de droite! Regarde, il aime la poésie, le tennis et le ski, c'est pas de droite ça! Comme par hasard, y a pas marqué j'aime la télé-réalité, le loto, le barbecue, les bagarres dans les bars...
Non, c'est vrai qu'il a pas une tête à se battre dans les bars.
Ah non mais je suis vraiment ravi qu'en cette période de crise, là, tous ces gens de droite puissent bénéficier d'un petit surcroît d'exposition, ça me fait vraiment plaisir.
Ouais mais c'est joli, réécoute.
Je m'en fous que ce soit joli, moi j'ai pas de jardin, j'ai pas de violon, j'ai jamais fait de ski. Qu'est-ce qu'on est à foutre? Je peux plus les voir ces gens, putain, il ferait mieux de fermer leur gueule. On se rappelle qui a voté à droite, on se rappelle pourquoi les soignants là, ils sont en manque de lits, ils sont en manque de personnel. On se rappelle à cause de qui? Des gens comme les caissières par exemple, là vont au boulot là en ce moment, la boule au ventre pour 700 euros par mois. C'est à cause de gens comme ça, putain.
Bon, bah lundi ce sera ouvrez les guillemets, et promis mardi dans les confinotes, pas de mec de droite hein.
Radio Sans-Nous, rubrique
Staline, reviens.
Je vous demande de rester chez vous.
Ce que je souhaite, continuer la vie économique.
Au goulag. Au goulag.
Envoie tes propositions de goulag sur l'adresse mail radio.sansnous@cma-pdll.org. Marc, au goulag dans le titre.
Au goulag. Au goulag. Et j'ai...
Eh bien, Radio Sans Nous, la première partie de l'émission du midi est en train de se terminer. On rappelle que jeudi prochain, il y a une soirée scène ouverte et on commence à recevoir les premières productions pour la scène ouverte. Alors n'hésitez pas, performances, chansons, tout ce que vous voulez, voilà, mix, tout ce que vous voulez. Donc on le récupère et on fait une scène ouverte le jeudi soir. Pareil, vous avez pu entendre les premiers jingles du crieur public où on peut se donner des informations, des nouvelles de l'autre bout du monde, des défis, des annonces, ainsi que la série Au Goulag pour envoyer au Goulag rejoindre Staline toutes les personnes qui le méritent. Eh bien voilà, eh bien je vous laisse pour la deuxième partie de cette émission du midi. Bonne journée à vous.
Vous écoutez une rediffusion de la Radio Sans Nous.
J'ai crié, crié pour qu'elle revienne.
Comme d'habitude, en